La méditation de ce matin a pour titre « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si… » Point de suspension. Donc on va partir de ce début de verset, on va voir un certain nombre de choses et puis on va revenir sur la fin du verset. Vous saurez que la méditation sera proche de sa fin. Donc en introduction à notre sujet… On va commencer par lire le contenu de la prière de l'apôtre Paul aux croyants de Colosse. Donc Colosse, c'était une ville d'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Paul n'y est jamais allé, mais il a jugé nécessaire d'écrire une lettre à un moment donné, parce que dans cette église, eh bien, il y avait un certain nombre d'événements qui se produisaient. Et il avait besoin de redresser la barre doctrinale, on va dire. Donc Colossiens 1, verset 9-10. Colossiens 1, verset 9-10. Donc Paul écrit, lui il est en prison à Rome, il écrit aux Colossiens. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Il est important, pour avoir une compréhension exacte de ce texte, de connaître un petit peu le contexte dans lequel était cette église de Colosse. Donc les historiens, il y a des gens qui ont passé du temps là-dessus, qui ont fait des recherches et qui nous disent que donc, cette lettre, elle est écrite en l'an 60, après Jésus-Christ donc, en l'an 60, et que cette ville de Colosse, à cette époque, c'était ce qu'on appelle un carrefour commercial important en Asie, et qui donc, outre son activité première, qui était donc l'activité marchande, le commerce, eh bien, favoriser la circulation de philosophies et de religions diverses. Donc le brassage de population faisait qu'on venait un peu de partout et chacun amenait avec lui sa religion, sa philosophie. Et tout ça, ça se retrouvait à Colosse. Il y avait aussi à Colosse une forte colonie juive, dit-on, des juifs qui avaient fui Jérusalem sous la persécution et qui s'étaient retrouvés à Colosse. Donc les chrétiens de cette église, eh bien, on constate qu'ils étaient exposés à un mélange d'idées, un foisonnement de philosophies, de tentatives de comprendre le monde, etc. Un mélange d'idées qui mélangeait le paganisme, qui mélangeait de la pensée grecque et qui mélangeait des idées aussi qui étaient issues de différentes sectes judaïques. Alors un grand mélange, et tout ça donnera plus tard ce qu'on a appelé une hérésie, le gnosticisme. Gnosticisme qui vient, alors c'est un mot compliqué comme ça, mais en fait, le mot grec gnosis veut dire connaissance. Gnosis, c'est la connaissance en grec, donc le gnosticisme, c'est une espèce de mise en valeur de la connaissance pour elle-même, un intellectualisme particulier. Donc cette hérésie, eh bien, elle mettait en avant l'acquisition d'une connaissance. Alors quand on dit cela, ce n'est pas simplement d'apprendre quelque chose, c'était d'avoir accès à des vérités cachées, secrètes, des choses comme ça. Hein. Ça nous rappelle un peu les religions à mystère de l'Égypte antique, des choses que certaines personnes, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut vouloir s'engager dans ce type de démarche, et ça permettait soi-disant de parvenir à la connaissance. Et donc, eh bien, à Colosse, il y avait ce type de choses qui se mettaient en place. Et les chrétiens, eh bien, ils étaient infiltrés dans l'église. Il y arrivait un tas de gens. C'était une plateforme commerciale. Ça venait, ça partait, etc. Et donc, les chrétiens, eh bien, ils entendaient un tas de choses qui étaient enseignées, dites, voilà. Par exemple, il était dit… que pour… accéder au salut, donc, il fallait avoir réussi à comprendre certaines choses. Ça nous fait penser un peu à la franc-maçonnerie, qui, à travers des rituels, des choses comme ça, plus ou moins secrètes, eh bien, a la prétention de parvenir, lorsqu'on arrive tout en haut de tous les degrés, eh bien, d'arriver à la connaissance, à la lumière, comme ils disent. Hein. Mais là, c'est la base de ce type de fonctionnement. Donc, cette doctrine, elle disait qu'il fallait comprendre certaines vérités sur l'homme, sur le monde, sur Dieu. Et ça, c'était la voie du salut. Salut devant être compris dans le sens de perfection. L'homme, dans ce type de démarche, il recherche une perfection. Et il estime que lorsqu'il est arrivé en haut de sa démarche, alors il a trouvé le bonheur éternel. Hein ? Ça nous fait aussi penser aux religions orientales, avec la recherche bouddhique, hein, qui nous dit, eh bien, il faut parvenir au nirvana. Bon, tout ça, c'est lié à ce type de procédé. Donc, en fait, dans l'hérésie gnostique, il apparaissait que seul l'esprit était bon. Et que la matière, tout ce qui était matière, le corps, etc., c'était mauvais. Donc, ça induisait qu'il fallait donc se méfier du corps, se méfier de notre chair, et qu'il fallait la brider, il fallait la discipliner. Donc, ce type de démarche s'accompagnait de pratiques ascétiques assez strictes, hein, pour discipliner le corps. Et les chrétiens, ils entendaient ça. Et ce n'est pas biblique, ce genre de choses. Et donc, Paul, il écrit une lettre pour dénoncer ces fausses doctrines. Par exemple, il était dit que Christ ne pouvait pas être à la fois Dieu et homme. Impensable, la matière est mauvaise. Comment Dieu aurait-il pu s'incarner dans un homme si on pense que la matière est mauvaise? Impossible. Donc les gnostiques refusaient cette idée-là. Et les chrétiens, ben, on leur disait ça aussi, ils entendaient ça. La Bible nous dit que Jésus était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Jean 1, verset 14, nous dit « La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole s'est faite chair. La Bible nous le dit, nous croyons ce que dit la Bible parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Romains 8, verset 3, nous dit également « Dieu a condamné le péché dans la chair, certes, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. » Et tout ça, en fait, ça a mené à des perversions parce que, puisque le corps était mauvais fondamentalement, eh bien, finalement, tant qu'on n'avait pas réussi à le maîtriser, ce corps, eh bien, le péché, c'était quelque chose d'inévitable. Donc, dans la religion, la pensée gnostique, le péché, il est acceptable. L'immoralité, elle est acceptable puisque c'est intimement lié à la condition de la matière qui est mauvaise en soi. Alors, les chrétiens entendaient ça. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Pierre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Mais au-delà d'une situation précise, là, dans l'église de Colosse, en l'an 60, eh bien, ce qui est dit dans la lettre qu'écrit Paul, ce sont en fait des vérités intemporelles et qui s'adressent aussi bien à l'église de Colosse de l'époque qu'à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, ici à Istres. Nous sommes destinataires, frères et sœurs, de cette lettre ce matin, ici, à Istres. Et cette lettre, elle est pour nous, soyons-en conscients. 1 Colossiens 1, verset 9-10, donc on revient à ces versets que nous avons mis en introduction, on se les remet en mémoire. Par rapport à la conception donc de cette hérésie gnostique, eh bien, Paul il va définir le type de connaissance qui est nécessaire aux croyants, parce que il ne faut pas penser que chez les chrétiens, il n'y a pas besoin de connaissance. Non, il y a besoin de connaissance aussi. Mais pas la connaissance pour la connaissance, pas pour s'enfler de connaissance. Hein ? La connaissance qui est nécessaire aux croyants, ce n'est pas l'étendue de ma connaissance. C'est pas ça qui va me procurer le salut. Je peux savoir un tas de choses. Hein ? Mais ce que je dois connaître, c'est celui qui me procure le salut. Ce que je dois connaître, c'est Jésus. Ce qui me sauve, ce n'est pas de connaître des choses sur Jésus. C'est de connaître Jésus lui-même. Hein ? Et c'est quand même assez différent. Parce que connaître Jésus, nous dit la parole, c'est connaître Dieu. Jean 14, verset 8-9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Donc dans sa prière, en fait, Paul il demande aux Colossiens, il prie pour eux et il demande qu'il leur soit accordé une compréhension approfondie de la volonté de Dieu et des choses spirituelles. Voilà la connaissance dont nous avons besoin. Hein ? Connaître la volonté de Dieu, connaître les choses spirituelles. Et il demande aussi qu'ils accomplissent de bonnes œuvres et grandissent par la connaissance de Dieu. Ça aussi, c'est un détail important, ce petit mot « par ». Il ne demande pas que les chrétiens grandissent en connaissance de Dieu, mais qu'ils grandissent par la connaissance de Dieu. Ça, c'est une différence fondamentale également. Hein ? Alors, la connaissance de Dieu, la Bible nous dit qu'elle n'est pas réservée à une élite. Au contraire, c'est tout le contraire. Hein ? Allez prêcher l'Évangile par toutes les nations, nous demande la parole. Donc la connaissance de Dieu, en fait, elle est à disposition de chacun qui veut, évidemment. Proverbe 8, verset 5-6. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Alors lu comme ça, ça introduit une petite touche humoristique, hein ? Mais ne considérez pas forcément qu'il y a des frères et sœurs qui seraient définitivement dépourvus d'intelligence. Hein ? Et que ce verset, eh bien, il s'adresse uniquement à ceci. Mais considérons que nous, les uns et les autres, dans certaines situations, eh bien, nous pouvons manquer de bon sens, les uns et les autres. Hein ? Qui peut prétendre être toujours au top, hein, dans ses relations ? Hein ? Et alors parfois, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on a été bête. Eh bien, même dans ce cas-là, nous pouvons être enseignés. C'est la parole qui nous le dit, hein, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. En tout cas, eh bien, Dieu veut que nous progressions toujours plus à son sujet, c'est sûr. Mais il en attend aussi une traduction concrète dans nos vies. Connaître des choses sur Dieu, c'est bien, c'est nécessaire, mais qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours ? C'est ça que le Seigneur attend de nous. Parce que la connaissance, au sens où la parole de Dieu nous demande de l'acquérir, ce n'est pas simplement de l'information, mais c'est aussi une transformation. Pas que de l'information, mais de la transformation, dans nos vies de croyants. On lit donc que les Colossiens, eh bien, ils sont encouragés à marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors ça laisse entendre qu'il était possible qu'ils vivent d'une manière indigne. Sinon, Paul n'aurait pas écrit cette chose-là. Hein ? Il était possible que les chrétiens, ou en tout cas certains d'entre eux, à Colosse, eh bien, ils puissent vivre d'une manière indigne de Jésus. Est-ce que c'est quelque chose qui nous est totalement étranger aujourd'hui ici à Istres ? Est-ce que c'est impossible que quelqu'un d'entre nous puisse vivre indignement de Jésus ? Est-ce que c'est possible que dans nos vies, nous puissions ne pas être entièrement agréables à Dieu ? Alors Paul, eh bien, il exhorte les Colossiens à porter des fruits. Jean 15, verset 8. Il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu est glorifié quand son esprit porte du fruit en nous et au travers de nous. Pas simplement recevoir, mais aussi transmettre, donner, aller vers. Les apôtres, c'était, ça veut dire apôtres envoyés. Ils étaient envoyés. Donc le développement des fruits spirituels, c'est-à-dire, si on comprend bien, un changement de comportement, une vie peut-être radicalement transformée, eh bien c'est ça qui est le signe irréfutable d'une authentique conversion à Christ. Un changement de comportement, une vie changée, une vie transformée. C'est le signe de l'appartenance réelle à Christ. Et le signe de la grâce du Seigneur qui agit en nous. Parce que ça n'est jamais par nos propres forces, nos propres moyens que nous pouvons atteindre ce but, cet objectif. Que n'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit la parole. Donc, on ne peut pas chercher à se glorifier de notre comportement, de nos attitudes. Matthieu 12, verset 34. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Donc il ne faut pas confondre pratique extérieure, assister aux réunions, ce matin la salle est à peu près garnie, mais ça n'a pas plus de sens que ça. S'engager dans divers domaines au bénéfice de l'Assemblée, c'est bien, c'est nécessaire. Et là, on peut se référer à la notion de bonnes œuvres qui a été évoquée tout à l'heure. Mais ces bonnes œuvres-là, en fait, dans la parole, il nous est dit qu'elles sont subordonnées à la croissance spirituelle. Je ne fais pas des bonnes œuvres pour acquérir mon salut, mais je fais des bonnes œuvres parce que je suis sauvé. Et sachons bien que Dieu, eh bien, il s'intéresse moins à ce que nous faisons pour lui, mais ça l'intéresse quand même, hein. Il s'intéresse moins à ce que nous faisons pour lui qu'à nos fruits spirituels. Mince, diront certains. Hein. Eh oui. 2 Pierre 3, verset 18, nous dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Psaume 92, 13 à 16 nous disent « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. » Amen. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Hein ? Nous devons, en tant que chrétiens, porter des fruits, porter du fruit, même dans la vieillesse. Parfois on entend « Oh, moi maintenant j'ai assez donné, maintenant je reste assis et j'attends. » C'est pas ce que demande la parole. Alors nous avons la capacité de grandir spirituellement, comme grandissent les arbres, nous dit la parole, hein, sur un plan tout à fait physique. De la même façon que les végétaux croissent, nous pouvons grandir spirituellement. Et le développement de notre vie spirituelle, eh bien, comme pour les arbres, c'est un processus continu qui est suscité par le Seigneur lui-même. Hein, c'est la voie de la sanctification. Et le Seigneur est là, c'est lui qui est à la manœuvre, pourrait-on dire, c'est lui qui conduit les choses par son esprit, qui agit dans nos vies, si nous le laissons faire. Évidemment. 1 Corinthiens 3, verset 7 dit que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Et le but de cette croissance, ce n'est pas tellement que l'arbre il prenne des dimensions extraordinaires, c'est de donner du fruit. C'est ça l'objectif. Que nous-mêmes aussi puissions donner du fruit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Dieu, il habite dans chaque chrétien authentique. Aucun chrétien ne peut dire « Ah non, mais moi, j'ai pas reçu, moi, l'esprit. » Alors tu n'es pas chrétien si tu n'as pas reçu l'esprit. C'est la parole de Dieu qui le dit, hein. Donc, puisque l'esprit qui est à l'œuvre en nous nous amène à porter du fruit, la conclusion qui s'impose, c'est que si nous ne portons pas de fruit, ça arrive, eh bien il y a quelque part quelque chose qui ne va pas dans notre vie aujourd'hui, si je ne porte pas de fruit. Et si c'est le cas, eh bien il faut s'en inquiéter d'urgence. D'urgence, parce que c'est un salut. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 2, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. » Ah, c'est dur. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Parfois, vous savez, on entend « Waouh, un tel, là, ça fait 30 ans que je le connais, c'est pas maintenant qu'il va changer. Hein » Ça, on peut l'entendre dehors, mais pas dans l'Église, parce que c'est en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, mon frère, ma sœur, alors il va provoquer un changement, une transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, eh bien il faut faire le bilan, le constat. Ça ne va pas. Et ce n'est pas simplement le fait de dire ça ne va pas et puis on s'en va. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Ça a un sens, les mots. Souvenons-nous de ce passage qui est bien connu dans Matthieu 7, verset 20-21, qui dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, Dieu exige, il exige des vies qui portent du fruit. D'un fruit spirituel dont nous ne pouvons jamais être à l'origine, par nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons favoriser l'apparition de ce fruit spirituel. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, parce que nous sommes chrétiens. Le fruit spirituel, c'est le Seigneur lui-même qui le produit en nous, si nous le laissons faire. Notre part dans l'affaire, c'est donc l'obéissance. C'est pas un gros mot, hein. De nos jours, c'est un gros mot, l'obéissance, pour certains. Il est interdit d'interdire, a-t-on dit à une certaine époque. Notre affaire, donc, c'est l'obéissance. Pas facile, hein, l'obéissance. On n'a pas trop envie d'obéir quand même. Hein. Notre affaire, c'est de désirer mieux connaître Jésus. Eh oui, c'est nécessaire. Si on n'a pas de désir particulier dans cette direction, bon, il ne se passera rien. Hein. Donc, désirer mieux connaître Jésus. Et puis, cette aspiration, avoir cette aspiration à expérimenter le Saint-Esprit. Dans des dimensions nouvelles, pas se contenter de ce qu'on a déjà reçu. Le Seigneur veut donner tant et tant et tant. À nous de nous en emparer. C'est lui qui donne, c'est lui qui suscite. Alors il est temps de s'intéresser à ce fameux fruit quand même. On parle de fruit depuis tout à l'heure, de fruit spirituel, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de penser que vous n'en savez rien, mais on va le relire quand même. Hein, c'est dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'esprit. Au passage, hein, on remarque qu'il y a un fruit avec 9 composantes, une fleur avec 9 pétales. Mais il y a un fruit de l'esprit. Hein ? Et ce fruit de l'esprit comprend 9 composantes différentes. Un peu comme en indivision. Hein ? Moi, j'ai eu à vendre la maison de mes parents récemment, avec ma sœur. On était en indivision. Eh bien, on ne pouvait rien faire l'un sans l'autre. Si moi, je voulais tel prix, il fallait que je m'accorde avec la volonté de ma sœur. Si moi, je voulais vendre à telle date, il fallait que je m'accorde avec la volonté de ma sœur, et inversement. Dans le fruit de l'esprit, on n'a pas à choisir. Tiens, moi, je vais prendre la joie, je vais prendre la patience, la maîtrise de soi. Non, c'est en indivision. Donc, ça doit croître, hein, en même temps. Ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. Souvent, on constate des déséquilibres, hein. Mais l'objectif, c'est ça. En fait, on ne peut pas choisir. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est à prendre en entier ou à laisser, oserais-je. Hein ? Or, ce matin, toutefois, on ne va pas envisager les 9 composantes. Mais on va en isoler une. La première, hein, ce n'est pas très original. On va prendre la première, on va commencer par le commencement. Et donc, on va envisager le fruit spirituel, la composante spirituelle du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Alors, comme on vient de le dire, parce que c'est le premier terme qui est là, dans la liste, mais aussi, le choix est conforté quand même par Colossiens 3, verset 14. Alors, moi, j'ai lu le verset dans la version seconde, 21, qui dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Ah. Donc, c'est intéressant de commencer par étudier l'amour. Parce que l'amour, eh bien, c'est comme le catalyseur des différentes qualités là, dont Paul nous parle. Hein, c'est l'amour qui fait le lien entre tout ça. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est dit... Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça fait réfléchir aussi, ça interpelle. Verset 11, Jean 4, nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Waouh, Seigneur! La parole nous dit que Dieu est amour et que donc, parce qu'il nous a aimés le premier, eh bien, en tant que croyant, en tant que chrétien, sauvé par grâce, eh bien, nous devons refléter nous aussi cet attribut divin qu'est l'amour. Mais attention, pas par nos propres forces, c'est toujours la même chose, pas par nos propres forces. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit que c'est au-dessus de ses forces ce qu'il vient d'entendre. Oh, le frère là-bas, oh, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. La sœur, oh. Et c'est vrai que c'est difficile, parfois, c'est difficile. Mais Romains 5, verset 5 nous dit aussi que l'amour de Dieu, eh bien, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas laissés seuls face à nous-mêmes pour progresser dans une voie qu'il faudrait gravir marche après marche par nos propres forces. Non, le Saint-Esprit nous a été donné et c'est lui qui nous fait progresser. On est content que le Saint-Esprit ne soit pas resté au ciel, mais que le Seigneur l'ait mis en nous. Parce qu'à travers lui, eh bien, le Seigneur répand l'élément fondamental qui nous fait avancer dans la vie chrétienne, c'est-à-dire son amour dans nos cœurs. C'est le carburant de notre vie chrétienne. Pas de carburant, on n'avance pas. L'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est le carburant de notre vie chrétienne. Sans lui, on reste sur place. 1 Corinthiens 13, verset 13, nous dit « Maintenant donc, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc la parole de Dieu, elle nous dit que la chose la plus importante, c'est l'amour, si on n'a pas compris encore. 1 Corinthiens 13, au verset 8, nous dit aussi « L'amour ne meurt jamais ». C'est la plus grande chose qui demeure et elle ne disparaît pas. L'amour ne meurt jamais. L'amour au sens biblique qui est utilisé dans la parole. L'amour ne meurt jamais. Parce que l'amour chrétien, ce n'est pas qu'un sentiment. L'amour chrétien, bien sûr qu'il y a du sentiment, mais c'est pas ça essentiellement. L'amour chrétien, c'est la décision d'agir dans l'intérêt premier de l'autre, de mon frère, de ma sœur. Ça, c'est l'amour chrétien. Et ça, c'est pas un sentiment, c'est une décision. On n'aime pas ça parce que si c'est une décision, ça veut dire que quand même, on est mis face à nous-mêmes. C'est une décision. Ça veut donc dire qu'en fait, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aimer. « Oh, lui, je l'aime pas !» Eh bien, ce n'est pas possible si on est chrétien. Alors, on va dire « oui, mais moi, quand même, j'ai vécu ça, il m'a fait ça, tu te rends compte ce qui m'est arrivé ?» Il n'y a pas d'excuse pour ne pas aimer. On a tous été dans des situations comme ça, il ne faut pas croire. C'est tout le monde. Mais il n'y a pas d'excuse pour ne pas aimer. 1 Corinthiens 13, toujours dans la version second 21, au verset 1, nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Il y a une expression populaire qui dit « Oh, toi, tu résonnes comme un tambour. » Ben, c'est un peu ça. Le verset 3 nous dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. » C'est fort, ça va loin. « Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Nos œuvres ne nous servent à rien si elles ne sont pas réalisées dans l'amour. Sans l'amour, toute forme de pratique religieuse, elle est sans valeur. On peut accomplir tous les rituels que l'on veut sans l'amour, aucune valeur. Dieu est amour, avons-nous lu plus haut. Et forcé de reconnaître que l'amour, terme qui est traduit du grec agapé, il s'agit de cet amour-là, c'est-à-dire de l'amour divin, l'amour agapé en nous, eh bien, c'est la nature de Dieu en nous. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu l'amour agapé en nous, l'amour divin. Est-ce que c'est ce que je manifeste, moi, dans l'Assemblée ? Est-ce que c'est ce que tu manifestes, toi, dans l'Assemblée ? Dans l'Assemblée des saints ? Quand je vais vers mon frère, quand je vais vers ma sœur, quelle est la voie que j'emprunte? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Si on a compris que le chrétien doit manifester l'amour, que le chrétien a reçu l'amour de Dieu en lui, est-ce qu'on s'est déjà dit, selon nos comportements et nos attitudes, mais comment c'est possible que l'amour... il fasse du mal à l'amour chez l'autre. L'amour, il ne peut pas faire du mal à l'amour. Oh Seigneur, là, ça va loin. Hein, en tout cas, ça nous fait réfléchir. Bon, c'est toujours schématique, hein, quand on présente des notions. Mais c'est ce que dit la parole. Alors, considérons l'enseignement de Jésus à ce propos, à propos de l'amour. Jean 13, versets 34-35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Mais ce n'est pas fini. « Comme je vous ai aimé. » Alors ça, c'est une autre dimension. Hein. « Aimez-vous les uns les autres. » Bon. « Comme je vous ai aimé, dit Jésus. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, ça nous parle de l'amour pour les frères, pour les sœurs en Christ. Aimez-vous les uns les autres. Mais en soi, l'amour du prochain, ce n'était pas un commandement nouveau dans l'Ancien Testament. Hein, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais la nouveauté de Jean 13, c'est qu'il nous est demandé d'aimer nos frères et sœurs de l'amour de Christ à notre égard. Voilà, c'est pas pareil, hein. Parce que l'amour de Christ à notre égard, ça veut dire l'amour qui se sacrifie. Et ça, a priori, on n'aime pas trop se sacrifier pour les autres. Et 1 Jean 4, verset 21, si je peux risquer cette expression, enfonce le clou. Et nous avons de lui, donc de Jésus, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors si on vient à l'église ici en affirmant haut et fort, Seigneur, je t'aime, alors tu peux dire la même chose en direction de ton frère et de ta sœur. Mon frère, je t'aime, ma sœur, je t'aime. Sinon, c'est de l'hypocrisie. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, alors je vous avais dit, lorsqu'on en arrivera là, ça veut dire que c'est bientôt fini. Donc le verset qui était mis en titre, il est en suspens, hein, la dernière partie, qui nous dit qu'on nous reconnaîtra comme disciples de Christ si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour fraternel, tel qu'on vient de le définir tout au long de ce message, eh bien, frères et sœurs, c'est le signe distinctif des disciples de Christ. Si nous sommes disciples de Christ, alors nous devons, quelque part, rayonner, irradier, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, l'amour de Christ en nous. C'est le signe de reconnaissance, c'est ce que dit la parole, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que dit la parole. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et ça n'est pas un conseil de Dieu, ça. Ça n'est pas une option dans la vie du chrétien. Il nous a dit que c'est un commandement, hein, un commandement nouveau. C'est un commandement. Un commandement de qui ? Un commandement de Dieu. Alors comment on pourrait rapidement traduire ça en acte ? Bon, aimer l'autre... Bon, j'ai conscience que c'est faible à côté de ce que Jésus a fait pour nous, mais nous, dans l'Église, comment aimer l'autre de ce type d'amour ? Mais peut-être en privilégiant l'intérêt de l'autre, justement, au détriment de notre confort personnel. Peut-être que je vais aller vers l'un, vers l'autre, même si ça me dérange au fond de moi. Peut-être que je vais accepter une offense sans chercher à me venger. En tout cas, c'est un défi pour chacun, c'est certain. Le roi David disait déjà lui-même dans 1 Chronique 21, verset 24, « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Frères et sœurs, parfois, aller vers quelqu'un dans l'assemblée, ça me coûte. Parfois, faire quelque chose en sachant que ça va me diminuer quelque chose personnellement, ben, ça peut me déranger. C'est un défi pour chacun. Mais David disait, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Si ça ne me coûte rien, ça ne vaut rien, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc Jésus, on a compris, hein, c'est la conclusion, il veut que l'amour au milieu des frères et sœurs, eh bien, soit un critère de reconnaissance de son Église. Et ce critère-là, il le voulait pour l'Église de Colosse. Hein. Rappelez-vous le contexte qu'on a défini en début de message. Hein, dans ce bouillon de culture spirituelle, religieuse, philosophique, tout ce qui était là à Colosse, eh bien, l'Église, elle risquait d'être enfouie là-dessous. Eh bien, Paul demande à l'Église, hein, aux chrétiens, de sortir de cette confusion ambiante et d'indiquer clairement qui ils étaient. Et comment faire cela ? Manifester l'amour de Dieu, l'amour de Christ en eux. Pas la peine de parler, pas la peine d'aller faire de grands discours. C'est visuel, manifester l'amour au milieu de nous. Hein ? Un observateur extérieur, il voit ça. Il n'a pas besoin d'entendre ce qu'on va dire, mais il va voir ce qui se passe. Hein, il va comprendre les relations, il va les sentir, il va dire mais c'est pas normal ça, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous êtes comme ça, c'est bizarre. Moi franchement au début où je me suis approché du Seigneur, quand j'arrivais dans la salle où avait lieu la réunion, je me mettais toujours au fond parce que je voulais vite partir sans qu'on m'attrape. Et j'étais souvent mécontent parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens là, mais c'est quoi alors cet amour là, c'est de la guimauve ce truc. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi je comprenais pas. C'était pas normal pour quelqu'un qui arrivait de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? J'ai compris depuis, hein. Mais au début, je me mettais au fond, je partais vite. Je voulais pas qu'on me parle, je voulais pas qu'on me touche, hein. Parce qu'il y avait quelque chose de tellement différent de ce que j'étais. Je supportais pas. Dans les temps un peu plus anciens, lorsqu'il y avait des armées qui partaient à la bataille, qui allaient sur le champ de bataille, il y avait des drapeaux, il y avait des étendards, et c'était des marques de reconnaissance. On reconnaissait les régiments, on reconnaissait la présence du roi, on reconnaissait tel noble, etc. Ils avaient chacun des couleurs, ça s'appelle, hein, des étendards, des bannières. Et cela servait aussi aux soldats qui étaient un peu en débandade sur le champ de bataille de savoir où il fallait aller, de retrouver leur régiment. Hein, ils avaient été dispersés, hop, ils voyaient la bannière, ils savaient qu'il fallait là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein, on est plutôt dans le camouflage ou dans le furtif. Hein. Mais avant, on se montrait. Ils étaient tous contents, les drapeaux, etc. Mais c'était surtout des signes de ralliement, en fait, des signes de reconnaissance. Hein. Eh bien, le signe de reconnaissance de l'Église, la bannière du Jésus-Christ, c'est l'amour fraternel. Amen. Notre bannière, celle qui doit être accrochée au-dessus de l'Église, là, du toit, c'est l'amour fraternel. Et le monde, eh bien, il nous observe. Alors, est-ce qu'il va trouver, ça c'est la question piège, est-ce qu'il va trouver au milieu de nous des indices qui vont lui dire que, ah ben là, il y a l'amour. Effectivement. Est-ce qu'il y a ça au milieu de nous ? Est-ce que ça se voit ? Tout simplement, est-ce que ça se voit ? Parce que l'appartenance aux disciples de Christ, eh bien, ça ne se juge pas au nombre de personnes qui ont passé la porte ce matin. Ça ne va pas se juger à la longueur de nos prières. Ça ne va pas se juger à la quantité des engagements qu'on peut avoir dans l'Église. Tout ça étant nécessaire, hein ? Mais l'appartenance aux disciples de Christ, eh bien, ça va se juger si on affiche les couleurs de l'amour, si on montre que l'amour, il est vivant au milieu de nous. Alors ce matin, eh bien, quelle est, frères et sœurs, notre bannière? J'ai posé la question, et est-ce qu'on va en rester là? Ben, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Hein, 1 Jean 2, verset 10 dit « Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Au verset 11, « Mais celui qui est son frère, eh ben, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Et dans ce cas-là, ce n'est pas le drapeau de l'amour qui flotte au-dessus de nous, mais c'est le drapeau noir des pirates. Hein, le drapeau noir des ténèbres. Ce n'est pas la même chose. 1 Jean 4, verset 20, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Frères et sœurs, si nous sommes disciples de Christ, et chacun répond pour lui-même, eh bien, nous n'avons pas le choix de ne pas aimer notre frère ou notre sœur. Amen.